Des élections législatives en Inde à partir du 19 avril, c'est la semaine prochaine. Le scrutin va durer un mois et demi et il devrait déboucher sur la remise en selle une nouvelle fois du Premier ministre Narendra Modi sous la bannière de son parti nationaliste hindou, le BJP. Dans ce contexte, les élus musulmans craignent de voir leur représentation politique s'éroder davantage encore. Avec 1,4 milliard d'habitants, l'Inde compte 220 millions de musulmans, mais la part des élus musulmans parmi les députés de la Chambre basse du Parlement a été divisée par deux depuis les années 70. Et aujourd'hui, les musulmans d'Inde ne sont pas les seuls à s'inquiéter parce que, globalement, les libertés ont été restreintes depuis une dizaine d'années, depuis que le Premier ministre Narendra Modi et son parti ont été portés au pouvoir. Les droits humains sont malmenés, les ONG et les journalistes en paient le prix. C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage d'Alexandre Bédoc à Chennai.
Le refuge du meilleur monde est situé à Chennai, à côté de la tour de l'horloge de Royapeta et du centre commercial Express Avenue. Cette zone est très résidentielle. La rue parallèle est une zone commerciale avec de nombreux magasins, pharmacies et marchés. Il y a un marché qui s'appelle le marché Zambazar. Il y a un commissariat pas loin. Nous sommes dans le sud de Chennai. Cette route nous relie à une plage connue sous le nom de la plage Marina.
Nous sommes au sud de l'Inde, à Chennai, l'ancienne Madras, la capitale de l'État du Tamil Nadu. À la veille des élections, cet état rentre dans l'été, une période excessivement humide, où de jour comme de nuit, la température avoisine les 30 degrés.
Nous accueillons ici des femmes en situation de handicap qui viennent d'autres états que le Tamil Nadu. Elles viennent pour avoir accès à l'éducation ou pour développer leurs moyens de subsistance. En ce moment, nous hébergeons 50 femmes dans le refuge. Voici la cuisine. Nous avons deux cuisinières, Rani et Silamba. Elles préparent de quoi manger pour les 50 femmes en situation de handicap. Le petit déjeuner, les collations, le déjeuner et le dîner. Ça, c'est l'endroit où les femmes lavent leurs vêtements. Les personnes malvoyantes aident celles qui ont des problèmes de mobilité à nettoyer leurs vêtements et à les mettre à sécher.
Singlish a un master spécialisé en travail social. Il est stagiaire dans ce centre qui accueille des femmes sans abri et en situation de handicap. La fondatrice du refuge s'appelle Swaria.
Je suis pédiatre et consultante en santé publique. J'ai travaillé pour le gouvernement de l'Inde et le gouvernement de l'État du Tamil Nadu pendant plus de 20 ans dans la prévention du sida et dans des programmes de traitement. Mais depuis 2016, étant moi-même une femme en situation de handicap, j'ai voulu passer plus de temps dans ce domaine. Et j'ai créé ce foyer pour les femmes sans-abri en situation de handicap depuis 2016.
Le centre accueille régulièrement 300 femmes et près de 50 dorment sur place. Quand on demande à Swaria si c'est facile d'obtenir de l'aide de la part des institutions, voici ce qu'elle nous répond.
Il faut se battre énormément. Nous devons frapper aux portes sans arrêt. J'ai passé tellement de coups de fil, fait tellement de visites, j'ai dû me battre avec des gens à chaque échelon. Et au fil des années, on a vu la société civile se faire étouffer. On a vu les ressources diminuer et l'énorme suspicion envers les activités des ONG se développer, surtout quand elles travaillent sur des thèmes comme les droits humains, l'autonomisation ou la formation. Ce sont évidemment juste des mots. Mais on ne les met pas sur le site internet, par exemple. Ces mots sont vus de manière très critique par les personnes du gouvernement central. Le gouvernement de Narendra Modi est arrivé au pouvoir en 2014. Et ça a été le tournant. Depuis, nous devons faire très attention à ce que nous faisons. Beaucoup de mes amis activistes font très attention aux mails qu'ils envoient, à ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Si tu critiques quelque chose, même si c'est un débat, une discussion, tu peux être repris. Ce n'est pas un espace sain. Nous devons faire attention à nous. Je ne dis pas toujours ce que je pense, je dois taire mes critiques. Mais pas seulement. Je me retiens d'exprimer mes déceptions ou mon sentiment d'horreur face à ce qu'il se passe la plupart du temps. Je reste calme en public parce que je ne veux pas qu'il y ait de représailles. Ce ne serait pas moi qui serais concernée, mais le refuge. Si le financement est coupé, si quelque chose arrive au refuge, ce n'est pas moi, c'est toutes les femmes ici qui seront concernées. Alors je fais très attention.
Souria préfère que son centre ne dépende pas des institutions. Comme nombre d'ONG, son organisation est surtout financée par des dons individuels et fonctionne grâce au bénévolat. De la même manière, recourir à des financements étrangers peut s'avérer risqué. C'est ce que nous explique Pranesh. Il est diplômé de droit et c'est l'un des fondateurs du think tank Centre pour l'Internet et la Société.
La loi sur la régulation des contributions étrangères, c'est une loi qui contrôle la réception des donations venues de l'étranger vers n'importe quelle entité en Inde. Et c'est une loi qui est souvent utilisée pour poursuivre des ONG, en particulier parce qu'elles dépendent de ces dons, de ce qu'on appelle donc dans la loi les contributions étrangères. À mon avis, cette loi a été utilisée de manière draconienne et de manière abusive. Les organisations ont vu leurs comptes bancaires gelés. Des organisations comme Greenpeace, Amnesty Inde, etc. Cette loi n'est donc pas seulement utilisée pour promouvoir la transparence, ce qui est louable a priori pour ce genre de disposition.
Plus de 20 000 ONG ont perdu leur accréditation depuis 2016. De la même manière, les antennes locales d'ONG internationales, comme Oxfam et Greenpeace, ont été forcées de plier bagage. Selon ce spécialiste des droits numériques, le gouvernement utiliserait aussi les données personnelles des citoyens pour leur envoyer des messages de propagande. Deux semaines avant notre entretien, comme de nombreux Indiens, j'ai reçu l'un de ces messages sur WhatsApp.
Face à cette situation, une demande de droit à l'information a été déposée auprès du gouvernement, à juste titre à mon avis. On leur demande quelle base de données ils ont utilisée pour envoyer ces messages sur WhatsApp. Parce que c'est fait sans permission, sans qu'il y ait aucun consentement. On leur demande aussi comment ils ont collecté ces données. Pour moi, à première vue, ça constitue une violation de la loi sur la protection des données personnelles numériques, une violation dès la constitution de cette liste, parce qu'elle contient clairement des informations personnellement identifiables et de l'utiliser de cette manière, dans cette campagne, sans obtenir le consentement de quiconque à aucun moment. D'une certaine manière, c'est aussi la responsabilité du gouvernement, parce que ça vient clairement d'un financement gouvernemental et pas d'un financement politique. La preuve, c'est qu'ils demandent dans le questionnaire comment le gouvernement s'était comporté depuis les dernières élections.
Le gouvernement utiliserait aussi des moyens technologiques pour surveiller la population. C'est notamment le cas du logiciel israélien Pegasus, utilisé en Inde depuis 2017.
Il y a énormément de surveillance illégale en Inde. Récemment, il y a eu un scandale au sein du gouvernement de l'Andhra Pradesh. Des responsables de la police ont été emprisonnés pour surveillance illégale. Et puis, il y a le célèbre cas du logiciel Pegasus. Il a été utilisé contre certains membres de partis d'opposition, mais aussi contre des journalistes. Et puis, certains hommes politiques, membres du parti au pouvoir, en ont aussi été victimes. Et si je me souviens bien, certains noms de juges figurent aussi dans cette liste.
En Inde, des journalistes sont régulièrement pris pour cible. Dans le classement mondial de la liberté de la presse, l'Inde se classe désormais 161e sur 180. Plusieurs correspondants étrangers ont vu le renouvellement de leur permis de résidence refusé. Une correspondante française a même dû quitter le territoire en février, après plus de 20 ans passés dans le pays. Nisha, elle, est indienne. En tant que journaliste, elle fait aussi face à des pressions.
L'an dernier, il y a eu une perquisition au bureau de la BBC. Les ordinateurs et les téléphones portables des journalistes ont été saisis. Et puis, il y a aussi eu une perquisition chez NewsClick. Ici, les organes de presse, ils sont soit réprimés, soit achetés par le BJP, le parti du Premier ministre. Dans le média pour lequel je travaillais, nous réalisions des sondages sortis des urnes, c'est-à-dire qu'on envoyait des questionnaires pour tenter de savoir qui pouvait gagner les élections ou pas. À ce moment-là, nous avions publié un sondage et ça n'a pas plu au gouvernement en place au Tamil Nadu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré la chaîne du câble. Parce que nous avons encore ce système de télé par câble. Et c'est la propriété du gouvernement. Beaucoup de gens regardent la télé. C'est subventionné. Mais le retrait de notre chaîne a duré longtemps. Des mois. Au moins 8 ou 9 mois. Le média a fini par fermer. Ils n'étaient pas capables de tenir tête au parti en place. Ce n'était pas la seule raison. Ils avaient aussi des problèmes de financement. Mais le fait de retirer la chaîne de l'offre de base du câble, ça a participé très clairement à fermer notre chaîne.
En octobre 2023, la plus grosse action jamais entreprise contre un média a ciblé le site d'information NewsClick. 500 fonctionnaires de police ont participé simultanément à plus de 100 perquisitions. À moins d'un mois des élections générales, le chef du gouvernement régional de Delhi a aussi été interpellé à son domicile pour corruption présumée. Du 19 avril au 1er juin, c'est près d'un milliard de personnes qui vont se rendre aux urnes. Alors, même si les sondages semblent très favorables au Premier ministre Modi, on pourrait se demander si la plus grande démocratie du monde est si démocratique que cela.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.